Maliga, Maliga. ESN lehi muran la maningi ndigi kede Maliga.
Des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Bienvenue à l'émission Chez Betty, femme d'un jour, femme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler sur la confiance en soi, entre autres. Je vais dire bonjour à nos invités aujourd'hui. Donc, nous accueillons Gaëlle Fagnoul, c'est ça ?
C'est bien ça,
bonjour. Donc, tu es...
Maître Reiki.
Maître Reiki, c'est ça qu'on dit. Hein.
Tout à fait.
Et Pascal Saint-Yves.
Bonjour.
Bonjour, entraîneur de foot.
C'est
un
ça,
peu partout.
Un peu partout.
Même les grands.
C'est arrivé, oui.
Ouais, voilà. On en dira plus après. Et on dit bonjour à Coco.
Bonjour, bonjour.
Qui est avec la rubrique beauté.
Oui, toujours.
T'es plein de choses aujourd'hui.
Ben oui, je vous parlais des sourcils aujourd'hui.
Ah, bon, bah tu oui. Pascal, si ça peut te servir.
À ce moment-là.
Ouais, écoute, on sait jamais. Et Angèle qui nous passera la musique.
Bonjour.
Pareil, plein de musique.
Oui.
Très positive.
Bah oui.
Puisqu'on parle de la confiance en soi,
bon,
du coup, restons positifs.
Voilà.
Donc on va enchaîner tout de suite avec l'actu. Par contre, là, on va moins rester positif. Ouais. On va enchaîner avec l'actualité féminine. Donc, actualité féminine. La source est le site Au Féminin. Donc, le 22 octobre 2019, ce qu'on appelle un acte héroïque. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Dans l'Oregon, un prof de sport, justement, Pascal,
oui.
A évité un drame de justesse en désarmant un élève qui menaçait de se suicider avec un fusil de chasse.
Waouh !
D'accord.
Donc non, les héros ne portent pas tous des capes et ne jouent pas tous à Batman. Donc ce prof de sport d'un lycée de l'Oregon a évité un drame en désarmant un élève muni d'un fusil à pompe. En réalité, l'homme a sauvé la vie de ce lycéen qui souhaitait se donner la mort. Les faits se sont déroulés le 17 mai dernier. Donc le prof se trouvait alors dans une salle de classe avec ses élèves quand la porte s'ouvre avec un gamin avec une arme à feu. En une fraction de seconde, il a analysé la situation et contrôlé le lycéen. Donc j'ai vu dans son regard et j'ai réalisé que c'était un vrai fusil à pompe. Ensuite, mon instinct a pris le dessus, poursuit le professeur. Sur les images provenant d'une caméra de surveillance, on peut voir un étudiant de 18 ans sortir d'une salle de classe avec un fusil dans la main. Le garçon est entraîné à l'extérieur par son prof. Le pire n'est heureusement pas arrivé, un suicide évité au sein du lycée. Donc on voit bien sur une vidéo qui neutralise. En fait, il prend l'enfant dans ses bras. Il fait un câlin.
Voilà.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Au lieu de, comme ça a été dit par la police apparemment, qu'il l'a plaqué au sol, en fait, pas du tout. En fait, il lui a fait un gros câlin.
D'accord.
Mais il y a la vidéo de surveillance du lycée qui atteste ses dires. Bon. Donc, comme quoi, bah, faites des câlins.
Voilà.
C'est bien.
Il a fait part de son froid.
Exactement.
Et en même temps, il a été très affectif.
Ouais, voilà. Lui. Donc, il n'a pas été méchant, plaqué au sol et puis l'insulter. Non, il lui a fait un câlin.
sûrement ce qui lui manquait aussi. Hein.
Voilà. Je pense. Un élève qui veut se suicider, généralement, c'est pas anodin.
Ah,
voilà. Donc, ce jeudi 7 novembre, Marlène Schiappa a annoncé que le Premier ministre Édouard Philippe avait retenu sa proposition d'expulser les étrangers condamnés pour violences sexuelles à l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration.
Oui.
Bah, il serait peut-être temps. Hein? Non? Enfin, je parle en tant que femme, hein, par rapport au viol. Non, enfin, bon, bref.
On est bien d'accord.
Bref, il leur faut du temps, nos petits hommes politiques. Donc, ils étaient une quarantaine ce jeudi 7 novembre à s'être donné rendez-vous devant la grille de l'école Camille Corot. En Loire-Atlantique, pour dénoncer le comportement d'un enseignant de CE2 qu'il soupçonnait de maltraitance. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire, des parents d'élèves ont décidé de manifester leur colère devant l'école. Depuis plusieurs semaines déjà, ils dénoncent le comportement d'un enseignant de CE2, qui aurait, selon eux, multiplié les punitions, les humiliations et les remarques désobligeantes. Sur les 24 élèves qui comptent sa classe, 12 seulement continueraient d'assister aux cours. 3 auraient même changé d'établissement, les autres étant actuellement déscolarisés. Donc, l'un des parents concernés explique « On n'a pas fait ça pour des petits bobos, mais des nuisances psychologiques de la malveillance. Le traumatisme des élèves a été un constat. Mais j'ai besoin que ma fille aille à l'école, mais actuellement, ce n'est pas possible. » Des signalements dans d'autres écoles. Donc, Nadège, quant à elle, a changé sa fille d'école seulement 2 semaines après la rentrée. Il classe les élèves en plusieurs groupes, les bons, les moyens, les mauvais, les pas bons. Il les laisse au fond de la classe sans travail. Il humilie par des phrases, il a fait pleurer un enfant pendant plus d'un quart d'heure parce qu'il n'avait pas correctement répondu à une question. En rentrant de l'école, ma fille pleurait, faisait des cauchemars et pipi au lit, se souvient la mère de famille. Donc interrogé par Ouest France, Sébastien également est venu manifester, assure que l'instituteur en question a déjà fait l'objet de signalements dans d'autres écoles qu'il a fréquentées et a ajouté que l'inspection a mis en place une cellule psychologique. C'est bien la preuve que tout ne va pas si bien. À les entendre, tout irait mieux, que le climat s'est apaisé, mais plus de la moitié des élèves ne vont plus à l'école, c'est un signe. Selon les parents d'élèves, la mairie refuserait désormais de signer des dérogations pour changer d'établissement scolaire afin d'éviter une fermeture de classe. Le rectorat quant à lui, déclare que cette situation exceptionnelle a été traitée avec un soin tout particulier.
Ben oui,
C'est le minimum.
Ben, il faut espérer. Sûr. Mais bon, ne pas signer de dérogation pour éviter de fermer une classe, il faudrait peut-être plutôt virer le prof.
Ça me semble logique. Oui, maintenant.
Ce qui serait logique.
Ouais, mais apparemment,
logique.
Non.
Mais là, en plus, c'est pas un cas isolé. Enfin, des fois, t'as un enfant qui peut se plaindre.
Voilà, oui. Là, sur 24, il y a la moitié qui ne viennent plus.
Mais là, apparemment, c'est un vrai problème.
Ouais. Oui, ouais. Oui. Et puis, pour qu'un enfant fasse pipi au lit.
Non, mais le rectorat, tu sais, c'est un peu comme le reste. Quoi. Ça met beaucoup de temps.
Je pense que le rectorat met énormément de temps. Il a du mal à faire bouger les choses.
Oui, ça ressemble à d'autres choses.
Ouais, exactement. Ce vendredi 8 novembre au soir, une femme de 34 ans a été retrouvée morte chez elle à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Son compagnon, considéré comme le principal suspect du meurtre, a été arrêté. Une jeune femme âgée de 34 ans a donc été retrouvée morte à son domicile, dans la région parisienne. Dans les premières constatations, le médecin légiste, la victime a été étranglée. Selon le parquet de Nanterre, son compagnon est le principal suspect dans cette affaire et a été arrêté. C'est un proche de la victime qui a donné l'alerte après s'être inquiété de ne pas avoir eu de ses nouvelles. Les pompiers sont arrivés sur les lieux ce vendredi 8 novembre dans la soirée et ils ont trouvé le corps de la jeune femme inanimé. Au domicile conjugal se trouvait également le compagnon de la victime. Ce dernier était blessé à la cuisse d'un coup de couteau. Après avoir été transporté à l'hôpital pour soigner sa blessure, il a été arrêté et devrait être entendu par la police rapidement. Les circonstances de la mort de la jeune femme restent encore à confirmer selon le parquet. Il pourrait s'agir du 130e féminicide de l'année 2019, un chiffre de plus en plus inquiétant puisqu'il est supérieur à celui de l'année dernière. En effet, selon le ministère de l'Intérieur, 121 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon en 2018.
Qu'est-ce que je dis face à la lâcheté?
Enfin, il faudrait quand même sévir un petit peu plus.
C'est vraiment ce qu'on peut faire de minimum, parce que là, on peut faire un débat là-dessus, mais il faut, qu'on soit intraitable avec ce genre de comportement.
Le problème, c'est que quand les hommes sont condamnés, c'est à 2 ans. Et que la femme qui a été frappée, elle, c'est généralement 8 à 10 ans de thérapie pour certaines.
Ah non, mais je trouve que...
Et le reste. Parce que parfois, il sort et elles sont encore obligées de subir les conséquences et les harcèlements et tout ça encore après. Mais bon.
Non, mais je sais pas, il devait pas nous sortir des lois pour qu'on...
Bah, c'est pas fait encore.
Non, oui, on attend.
On attend qu'il y ait plus de morts.
C'est plus... Ouais, je pense.
Ouais.
Bon, c'est surtout que si les femmes pouvaient se taire aussi, ça les arrangerait aussi un petit peu.
Bah non, faut les encourager à l'inverse, justement.
Oui, ben eux, justement, ce qu'ils veulent, c'est que peut-être nous faire peur, ou, enfin, j'en sais rien, je sais pas, mais je pense qu'en fait, ils en ont rien à faire, ils sont dans leur tour de Babel, et puis voilà.
Ouais, non, mais moi, face à cette lâcheté, et ce... en étant un pro-féministe, mais sans non plus faire le comment être trop jouer le faillot avec les nanas, parce qu'après tu fais ça pour draguer et tout ça, mais pas du tout. Moi, je trouve qu'un homme qui commence et qui frappe sa compagne ou sa femme, il a déjà perdu son statut d'homme.
Oui, déjà. Mais t'en as qui vont dire qu'en fait, si tu frappes pas ta femme, c'est que tu n'es pas un homme. Donc en fait, t'as certaines personnes qui sont formatées en fait à ça.
Non, mais là, ce sont des primates, tu me parles.
Oui,
de primates,
oui. Ouais. Bah, la semaine dernière, on parlait justement que au Moyen Âge, il y avait de l'humour sur le fait. En fait, c'était très marrant de frapper sa femme. Il y avait même des esquisses qui montraient que c'était humoristique
normal
de frapper sa femme, comme les blagues sur les blondes à l'heure actuelle, tu vois.
D'accord.
Ouais. Donc, disons que je pense qu'on est resté très primate à l'ère du Moyen-Âge pour certains hommes, pas pour tous, heureusement.
Heureusement.
Donc, invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC le mardi 5 novembre, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a révélé avoir été victime de harcèlement au travail. C'est marrant parce que ça change pas grand chose.
C'est encore la faute des mecs.
Non, mais en ce moment, les mecs ils s'en prennent plein. T'as remarqué? En plus, t'es un mec. C'est la première fois qu'on soit un homme
dans l'émission.
Et vous êtes trois.
Ouais.
Eh oui.
Bon, t'as de la chance, il y a juste André qui est là derrière. Ouais. Donc...
Je compte sur lui.
Donc, oui, du coup, elle a dit qu'elle avait été. Oui, mais même si elle est victime de harcèlement, elle est quand même ministre du Travail. Elle devrait être portée par non au harcèlement au travail.
Elle devrait être aidée par qui? Tu veux dire par le
président? Non, pas aidée, parce d'être plus convaincante en disant que
d'accord.
Ça, tu vois, si elle l'a vécu elle-même, elle devrait comprendre ce que c'est. Donc apporter les lois qui sont censées être les meilleures, qu'il ne se passe pas grand-chose.
Oui, mais là, voilà. On est toujours dans le non-sens là depuis.
Oui, de toute façon, c'est à se demander si elle était vraiment harcelée.
Ou alors c'est peut-être. Non, je n'ai rien à dire.
Ah, mais c'est peut-être un argument pour justement paraître une ministre bien. Je ne sais pas. Avec tous les mensonges qu'on nous pond, et au jour d'aujourd'hui, tu ne sais plus trop, en fait, si c'est vrai.
Tu crois qu'on nous ment?
Tu sais, moi, je ne serais plus à ça. Hein. Je ne serais étonnée par strictement rien du tout. Donc, tu vois.
D'accord. Oui, mais je partage ton avis.
Je ne serais étonnée par rien. Donc vendredi, le corps sans vie d'une femme de 34 ans avait été retrouvé dans un appartement placé en garde à vue. Son conjoint était considéré comme le principal suspect, comme d'habitude. Cet homme avoue avoir tué sa compagne. Donc vendredi 8 novembre, le corps d'une jeune femme de 34 ans a été retrouvé dans son appartement de Levallois-Perret, encore. Après qu'un
c'est
proche,
dans la même ville.
J'ai l'impression, ouais. Ou alors c'est les deux fois. En fait, je me suis trompée. Je parle de deux fois la même chose, tu vois.
Ah, ben
c'est pas grave. C'est moi. Donc, Jonathan Daval, dont le procès pour le meurtre de son épouse Alexia devrait débuter l'an prochain, a été entendu cet été par un psychiatre mandaté par le juge d'instruction sur les raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable. C'est un féminicide qui a bouleversé la France. Alexia Daval, âgée de 29 ans, a été assassinée le 30 octobre 2017 par son conjoint, Jonathan. Entendu par un psychiatre mandaté par le juge d'instruction, celui-ci qui a tenté de camoufler son meurtre l'explique par des difficultés au sein de son couple. comme le rapportent nos confrères du Point, qui ont pu consulter le rapport de l'expert versé au dossier. Elle est devenue violente, en parole et en acte, et m'humiliait en disant que j'étais un bon à rien. J'encaissais les coups et j'esquivais. N'a pas hésité à déclarer l'homme qui, par le passé, assurait être la victime d'un complot familial. Toujours amoureux de sa femme, elle m'a dit « T'es pas un homme, tu m'as frappé avec les pieds et les mains. » Non, elle m'a frappé avec les pieds et les mains, elle m'a poussé, alors je l'ai bloqué, je l'ai étranglé et je l'ai frappé. Ce que je voulais, c'est qu'elle se taise, a poursuivi Jonathan Daval, qui, selon l'expert psychiatrique, posséderait une personnalité obsessionnelle propice à un refoulement de l'agressivité qui a pris racine dès l'enfance à la suite de sévères troubles obsessionnels compulsifs. Donc les TOC, tels que l'amour de l'ordre, de la propreté, du rangement, une persistance de rite de la vérification. Si le médecin note une pathologie de personnalité évidente chez le prévenu, ce dernier ne révèle en revanche aucune dangerosité psychiatrique. Chez lui, chez celui qui assure être toujours amoureux de sa femme, ses conclusions vont à l'encontre d'une première expertise psy et devraient pleinement engager la responsabilité pénale de Jonathan Daval lors de son procès à venir.
Bah normal, quand tu aimes, tu tues, quoi.
Oui,
ouais, oui, c'est logique.
Ça devient banal, maintenant.
Ouais, ouais. Bah, j'ai jamais vu des gens avec des TOC aller jusqu'à tuer leur femme parce qu'elle leur a dit « t'es un fainéant ».
Non. Faut pas exagérer non plus.
Et puis, quelque part, pour moi, ça va pas trop. Parce que s'il était perfectionniste, comment on pouvait le traiter de fainéant ?
Non, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le psychiatre.
Oui,
oui, aussi. Et c'est inquiétant, fond. Effectivement.
Ouais, c'est clair. On faudrait demander le nom du psychiatre. Donc la consommation d'alcool, de psychotroques, n'est pas assez prise en compte dans la lutte contre les violences conjugales, alerte une tribune. Écrite par des médecins et des proches de malades alcooliques, elle réclame plus de mesures à l'issue du Grenelle des violences conjugales. Ils avaient déjà lancé l'alerte le 21 octobre dernier dans des lettres ouvertes adressées à Marlène Chapia, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et à la ministre de la Santé, dans une tribune parue dans Le Parisien. Aujourd'hui, en France, des spécialistes et des proches de malades alcooliques dénoncent une insuffisance prise en compte du rôle de l'alcool et de psychotropes dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Lancé à grand renfort de médias, le Grenelle des violences conjugales, qui va conclure vendredi prochain, ne pourra que décevoir au regard de la quasi-absence de propositions des travaux préparatoires, estiment les auteurs de la tribune. Ils se basent sur des faits. L'analyse des morts violentes au sein des couples survenues en 2018. Donc, les 121 féminicides dénombrés par le ministère de l'Intérieur montrent que dans la moitié des cas, 55%, l'auteur ou la victime sont sous l'emprise d'une substance comme l'alcool, les stupéfiants ou autres psychotropes. Face à cela, les auteurs de la tribune disent avoir proposé des mesures efficaces, cohérentes, faciles à mettre en œuvre et surtout reposant sur les connaissances scientifiques qui font consensus. Des propositions comme faire en sorte que des personnes concernées diminuent leur consommation d'alcool, d'une obligation de soins soit ordonnée par la justice, à former les policiers, à faire fermer les débits de boissons 1h30 plus tôt, méthode qui a fait ses preuves en Australie, ou encore la mise en place d'une campagne nationale d'information sur les répercussions de la maladie alcoolique sur l'environnement des malades. Ces mesures visaient à prévenir ces violences et à en réduire la fréquence et les conséquences.
Oui.
Bon, mais apparemment.
En fait, c'est pas de leur faute. Quoi.
Non, voilà, jamais.
Oui,
c'est
leur trouver des excuses. Tout le temps.
Oui.
Mais.
Les gens ne sont jamais responsables de leurs actes.
Non, mais c'est ça, c'est dramatique.
Ouais. Même si c'est à cause de. Même si l'alcool amplifie son comportement, à la base, on a quand même décidé de boire.
Oui, puis même le comportement violent est déjà là.
Bah oui, parce qu'il est amplifié par l'alcool, voilà. De toute façon. Okay. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens, même des hommes, avoir bu, bah, ils se chantaient la messe en latin, pour certains.
Oui, ils apprennent une langue étrangère.
Voilà, exactement. Donc, on ne sait pas d'où ça sortait.
C'est
mais
moins dangereux.
Chantaient. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont capables de ne pas être violents, même avec l'alcool.
Bien sûr.
Bah, ça me semble évident.
Oui, mais apparemment, pas pour tout le monde, donc... Donc une mère de famille a perdu la vie alors qu'elle faisait un gâteau avec son fils de 15 ans. Celui-ci a essayé de la sauver. Elle a malgré tout été happée par son robot de cuisine.
Waouh.
Elle est décédée ?
étranglé. Une mère de famille a tragiquement perdu la vie dimanche 10 novembre 2019 à Saint-Étienne dans la Loire. Cette femme de 58 ans était en train de faire un gâteau avec son fils adolescent âgé de 15 ans. Son foulard s'est alors happé, a été happé par son robot multicuiseur, ont indiqué les pompiers et la police. Le morceau de tissu a été pris dans le rotor de l'appareil et s'est enroulé autour de son axe. À cause de cela, elle a été étranglée sous les yeux de son garçon. Vers 10h du matin, l'adolescent a appelé les pompiers, affolé, indiquant qu'il se trouvait à côté d'elle dans la cuisine quand ce tragique accident domestique s'est produit et que sa mère s'est écroulée. Avant l'arrivée des secours, le garçon avait déjà eu la présence d'esprit de couper l'alimentation électrique du robot de cuisine et avait coupé le foulard porté par sa maman. Malgré son intervention, les secouristes ne sont pas parvenus à sauver la femme inanimée lorsqu'ils sont arrivés. Dans les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un accident causé par un robot multicuiseur dont la marque n'est pas précisée. Elle va se poursuivre pour déterminer les circonstances de l'accident. La machine va certainement devoir être examinée pour savoir comment elle a pu causer cet étranglement qui a entraîné la mort de cette mère de famille.
C'est dramatique.
C'est... Mais non, mais par un robot multi. Enfin,
c'est la définition de l'accident, quoi. C'est stupide.
C'est l'accident domestique dans toute sa splendeur, là. Je pense qu'on peut le dire. Hein.
Ouais.
Donc, une femme de 40 ans a été tuée, poignardée par son mari, sa fille qui a assisté à une partie de la scène. Je pense qu'on a tous vu dans les médias et ça passe en boucle en ce moment. Explique que la victime avait déposé plainte contre son conjoint. Donc, dimanche 10 novembre vers 23h, Sylvia a perdu la vie, tuée par son compagnon. Cette femme de 40 ans qui résidait dans le Bas-Rhin est décédée après plusieurs coups de couteau portés au cou, au thorax, par son mari de 58 ans. L'homme a ensuite tenté de s'y suicider, mais a été maîtrisé par les gendarmes et placé en garde à vue. Sylvia était mariée avec cet homme depuis un an et était en instance de vie divorce selon sa fille. Elle avait déposé une main courante à la gendarmerie il y a 2 mois et une plainte il y a 1 mois pour des faits de violence. Elle avait également déposé plainte pour menace de mort. Son mari devait être interrogé par les gendarmes au mois de décembre.
Oui.
C'est un peu long, décembre. Sa fille Stella a assisté à une partie de la scène, tandis que sa mère est morte dans ses bras. Elle raconte à France Bleu les violences conjugales qu'elle subissait depuis plusieurs années. Cela fait 3-4 ans qu'ils étaient ensemble. Qu'elle n'a jamais voulu en parler par peur pour elle et pour le défendre. On voit où ça mène aujourd'hui, confie la jeune femme. Elle raconte qu'elle avait peur pour la sécurité de sa maman. Je lui ai demandé plusieurs fois de venir vivre chez moi. Et ce dimanche soir, Sylvia a appelé donc sa fille aux alentours de 23h en lui disant à l'aide et que son mari avait de nouveau caché un couteau et j'ai entendu crier. Je suis partie dans ma voiture. J'ai mis 3 minutes pour arriver au domicile de ma maman. Les gendarmes ont mis une demi-heure avant d'arriver. Elle est arrivée plus vite, est entrée dans le domicile de sa mère. J'ai eu le temps d'escalader le portail, de fracturer la porte pour essayer d'entrer pour voir ma mère prendre le dernier coup de couteau dans la carotide. Elle s'est relevée et venue vers moi et c'était fini. Stella dénonce le manque de réaction des forces de l'ordre, selon elle. Quand elle a accompagné Sylvia pour porter plainte, personne n'a voulu écouter, personne n'a voulu aider. À part des porter plainte, madame, c'est bien beau de porter plainte, mais ça n'aide pas. On lui a dit, madame, il faut que vous partiez, mais elle leur a répondu, je suis aussi chez moi, j'ai mon chien, j'ai ma vie ici, je ne partirai pas. Alors, on la raccompagne sur le canapé et on lui dit, bonne nuit, madame. Le lendemain, on n'est pas sûr qu'elle se réveille. C'est ce qui s'est arrivé cette nuit, raconte la jeune femme, qui veut organiser une marche blanche en mémoire de sa mère dans les prochains jours. D'après France Bleu, la mort de Sylvia est le 2e féminicide dans le Bas-Rhin et le 6e d'Alsace depuis le début de l'année. Le décompte tenu sur la page donc Facebook Féminicide par compagnon ou ex indique que cette femme est la 131e femme à mourir sur les coups portés par son conjoint.
Ben moi je dirais, je suis pas le seul à évoquer la chose, c'est que je pense dès la première violence, mesdames, barrez-vous.
Ben, le problème c'est que parfois tu peux pas.
Oui,
quand t'as des enfants, en fait, le problème c'est que tu peux pas, sinon c'est abandon de domicile et enlèvement d'enfants.
Ça se retourne contre.
Eh ouais. Donc.
Alors voilà, faut que les textes de.
En fait, c'est ça. En fait, c'est qu'à partir du moment, ce moment-là, moi je trouve que quand t'as quelqu'un qui vient dire pour violence, tu fais une enquête directement. Médico-psychologique. Et là, je pense qu'il faudrait Enfin, moi, j'ai subi des violences, que ce soit ma mère et moi aussi, malheureusement. Mais je pense que ça devrait être tout de suite, le mari devrait être extrait du domicile et vérification des dires de chacun. Parce qu'il y a des femmes qui mentent aussi. Mais
on est bien d'accord.
Oui, je veux dire arriver, il faut faire une enquête médico-psychologique. C'est la base. On peut pas dire comme ça, madame. Bah, il y a des fois, il y a des hommes, ils savent taper pour justement d'accord. que ça ne se voit pas.
D'accord.
Tu vois?
Non, alors dans la, alors mesdames, si c'est possible pour vous, si vous n'êtes pas dans,
barrez-vous,
et puis appelez des copains pour qu'ils, voilà, on peut des fois s'en occuper autrement.
Oui, parce aussi.
Que, non, mais c'est débile ce que je dis, mais à un moment, ça suffit.
Bah, le truc, c'est que on est quand même au 131e et on n'est pas encore à la fin de l'année, quoi.
Mais non.
Il reste encore 2 mois quasi, et on a dépassé le chiffre de l'année dernière.
Ça fait presque une moyenne de 12 par mois.
Enfin, ouais, ouais,
ça va pas.
Mais on a l'impression que plus on en parle, et pire c'est.
Oui.
Tu vois. Donc les femmes veulent. Et je sais que quand tu veux justement aller dire. C'est aller porter plainte ou tout ça, parfois le mari redouble de violence.
Ah oui?
Tu vois. Moi je sais que quand j'avais été déposer plainte, les flics n'en avaient rien à foutre. Qu'est-ce qu'a fait mon ex-mari? Oh mon Dieu, j'ai le droit, en fait.
Ah, il l'a pensé comme ça. C'est
pas
faux.
Pour lui, c'est dit, j'ai le droit en fait de la frapper, puisqu'en fait, on me dit rien.
Oui, mais on revient aussi peut-être. Alors, est-ce qu'on donne pas assez de pouvoir à la police, à la gendarmerie ou...
Après, c'est les autorités. On sait très bien qu'il faut des preuves. Ça, c'est indéniable. Mais à un moment donné, quand il y a suspicion, à ce moment-là, on fait une enquête.
Non, mais s'il y a une vraie volonté politique, d'un moment d'intervenir.
Mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. On revient au discours de tout à l'heure.
Il y a juste des réunions pour dire le Grenelle de je sais pas quoi.
Oui, mais ça, c'est pour se
caresser. Pour faire croire.
Ça,
et puis.
Se donner bonne conscience. Mais
voilà.
Mais c'est complètement inutile.
Non.
Il faut qu'on ait aussi au gouvernement des hommes qui.
Pourtant, on a quand même des femmes.
Oui, oui, mais je pense que.
Tu vois, qui sont ministres du travail, secrétaire d'État de l'égalité.
Oui, mais aujourd'hui, il y a notre président, pardon de te couper, mais tu es président ou premier ministre. À un moment, tu.
Enfin, moi, s'en fout, c'est des hommes, qu'est-ce qu'ils en ont à faire.
S'il te plaît, ouais, les mais hommes c'est... pas comme ça tous.
Enfin, bah, apparemment, eux, ça doit être le cas.
Tu penses, toi? Enfin, moi, je les connais pas, donc je.
Bah,
moi
non plus. Mais c'est... là, je ne fais que supposer. Mais apparemment, pour eux, il y a peut-être d'autres choses qui sont plus importantes que la femme, on va dire, en règle générale. Il n'y a pas que la femme, parce que t'as les enfants aussi.
Oui.
Quand t'as les enfants qui, voilà, ma mère était frappée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reproduit. Un enfant, un petit garçon qui va voir son père frapper sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut reproduire. Et il frappera peut-être sa femme ou ses enfants beaucoup plus tard.
Oui, à partir du moment où ils vont savoir qu'il y a une loi ou il y a des lois et qu'il y a une répression là-dessus, ça va se calmer.
C'est ça.
Et puis s'il ne se calme pas,
il faut espérer. Mais c'est pas le cas. Donc, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, moi, quand
c'est de la violence, quoi.
Ouais.
C'est comme.
Il y a mort quand même. Hein.
Et toutes ces violences.
C'est un assassinat.
Il faut associer ça à la violence aujourd'hui. De partout, enfin, c'est un acte de violence, donc je vois pas pourquoi cette partie-là n'est pas traitée, et j'ai l'impression que, voilà, t'as raison, tout le monde s'en fiche.
Tout le monde s'en fiche, on n'est que des femmes.
Oui.
Tu vois, si je reprends ce qu'on avait fait la semaine dernière, en parlant de l'histoire, justement, des femmes, on n'avait pas d'âme jusqu'à un moment donné.
Non.
D'accord.
Tu vois, après, au Moyen-Âge, on pouvait nous frapper dessus, c'est pas grave. Donc, et je pense qu'il y a des choses qui sont restées, ça c'est indéniable. Après, t'as la religion qui fait que les femmes c'était des sorcières, donc on est toujours montré du doigt comme étant la cause de tous les problèmes, on va dire, entre guillemets.
Et pourtant, je pense que l'avenir sera féminin. Mais...
J'espère. Bon.
Ou au moins équilibré.
Ça serait mieux.
Voilà.
Tu aurais une femme présidente, en fait.
Non, mais ça va arriver.
J'espère. J'espère. Donc, on va passer à la rubrique confiance en soi pour essayer d'aiguiller un petit peu tout ça.
Oui, parce que c'est une bonne nouvelle que tu as annoncée là.
Ouais. Je sais, je suis désolée,
Il faut en parler.
C'est l'actualité féminine. Voilà. Donc, Angel, petit jingle.
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love.
petite rubrique confiance en soi. Parce que comme la semaine dernière, j'ai pas pu tout dire, j'aimerais bien reprendre. C'est pour voilà. Donc on n'a pas tous les jours 20 ans, dit la chanson, ni tous les jours 30, 40, 60, etc. À tout âge, finalement, la croisière s'amuse. J'ai bien choisi mon petit jingle avant. Donc c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux à vieillir. Vieillir a du bon. La oui. preuve, hein, nous, bah Coco,
oui, tout à
hein,
fait,
voilà,
tout
je
ne
sais pas
fait.
Quel âge tu as, Gaël.
37.
Ah bah voilà. Eh bah nous, 43.
Je ne le dirai pas.
On le dira
pas. Bah moi encore moins.
Bah non, mais peu importe l'âge, c'est bien. Donc vieillir, c'est le plus bel âge de la vie.
Oui.
Bah oui.
Point d'interrogation, ouais, hein, parce que voilà, j'ai oui. pas fait ma phrase.
Ouais, ouais, voilà, ouais.
Donc la maturité, c'est être né avec la télé en noir et blanc et avoir grandi avec l'avènement du Minitel. Oui, c'est mon corps. Donc on dansait sur les nerfs de Banana Split.
Oui.
Qui s'en souvient?
Oui, oui.
Un petit peu. Donc, Lio était notre référence, pas sa fille Nabila. et voilà, à la cinquantaine, on est une quinca pour Pôle emploi, on est même une senior. Un âge avec Rassi, avec les Charentaises et Bigoudi. Bon, ça, c'était bien avant.
Ça,
hein. Heureusement, c'était plus nos grands-parents. Bon, Rassi, pas trop, mais en Charentaise, oui. Non, ma grand-mère était en Charentaise.
Bah moi j'en ai des charentaises. Non, je déconne.
Non, mais je dis ça, ça revient à la mode. Hein.
Bah ouais.
Donc faut pas déconner.
Ça revient à la mode. Pas pour moi.
Donc sur le terrain de la vraie vie, ça veut plutôt dire poste à responsabilité, management, meilleur salaire, logiquement, que celui de la jeune diplômée qui décroche son premier CDI. Ce que l'on perd en babyface, en effronterie, en crinière, on le gagne en élégance, en finesse et en sagesse. Avec les hommes, femmes mûres rime avec expérience, saine, sex and sun et aplomb. Quand
j'approuve.
T'approuves. Quand on voit Fanny Ardant, toujours ardente et culottée, on se dit que la maturité a de beaux jours devant elle. On se connaît bien et c'est un plaisir. Les crises existentielles, c'est bon pour les jeunes qui trépignent et les quadrants, enfin non, bah, moi ça va, hein, qui voient l'horloge biologique se tourner. Non, ça va,
ça aussi,
ça va. Donc, on vit, ça suffit à notre bonheur. À force de se côtoyer soi-même, on commence à s'apprécier. Se faire la guerre contre les diplômes qu'on n'a pas eus ou les kilos qu'on n'a pas perdus. Donc, si on a su s'écouter, éviter le phénomène des répétitions, on est de plus en plus en phase avec soi-même. C'est comme si on devenait sa propre meilleure amie, effet domino, au diable les contraintes. Les Noëls avec la belle-sœur radine, envieuse, terminé. On a le sentiment de la limite, de la finitude.
Ça on sent le vécu.
Fait, ouais, voilà. On fait le tri dans ses relations et ses obligations. Un côté Calamity Jane qui envoie valdinguer les casse-pieds. Dans le même esprit expéditif, on en a fini avec les parties de tennis pour faire plaisir à son conjoint. On a donné dans le registre Super Nana Métro Boulot Dodo, puis Super Mama Métro Boulot Popote. Désormais, on veut penser à soi. Bénéfice de l'âge, on sait mieux ce qui nous va au moral, comme au teint, couleur chaude ou couleur froide, on allège son maquillage. L'œil souligné... l'image d'elle à 20 ans, c'est regrettable, quoi, tu vois. Enfin, surtout maintenant avec
le contour.
Ouais, surtout maintenant avec le contouring, ouïouïouï. Donc, le sourire est le plus beau des maquillages. Ça aussi, on le découvre. Enfin, on confie sa chevelure à un bon coloriste pour ne pas ressembler à Donatella Versace. Pardon. Sauf si c'est ce qu'on veut. Enfin, tu vois. Qui a dit que la maturité, on doit se ranger des voitures, renoncer aux cheveux mi-longs, aux strings, aux shorts en daim, pas en ville. Alors, pas en ville, mais ça, c'est une question de bon goût, pas d'âge. Donc, ensuite, on peut se lâcher à mettre ses Doc Martens, pourquoi pas.
Enfin, oui.
Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent. Et moi, j'en perds mon truc. C'est pas grave. On a de meilleures antennes avec l'expérience. On a développé une solide connaissance du genre humain et une sacrée intuition. Celui ou celle qui pense nous manipuler peut se lever de bonne heure. Le chantage, la flatterie, avec nous, c'est perdu d'avance. Donc, on file des entourloupes. On a compris à repérer les signaux avant-coureurs d'une galère. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'estime de soi si l'on s'éloigne de qui nous assomme avec ses problèmes, de qui fait du chantage affectif, de qui nous dévalorise pour mieux briller. Par contraste, on écoute les symptômes physiques du malaise, boule au ventre, envie de détaler. On ne se sent pas bien ici, on n'y reviendra pas de sitôt, c'est simple, comme au revoir. On quitte à y laisser ses idéaux, on ne confond plus amitié et superglue. L'ami qui nous veut du bien ne s'incruste pas pour les vacances, ni ne nous téléphone à minuit sauf urgence. De même, on ne prend plus la jalousie pour de l'amour. Le gars qui nous envoie une rafale de SMS en une demi-journée n'est pas faux amoureux, il est juste cinglé. Voilà. La pression, on l'a subi déjà au boulot, dans la vie privée. On préfère le meilleur sans le pire. On a eu notre quota de séparation, voire de divorce. Pas question de brader notre espace psychique ou physique. Ce n'est pas parce qu'on coule des ours heureux avec un monsieur qu'on va accepter qu'il s'installe avec ses canaris et sa mousse à raser. Ou alors, on le fait en connaissance de cause. Ça durera ce que ça durera. N'y voyez pas de l'expression d'un cœur sec, mais celui du bon sens populaire. On a des compétences. Notre CV fait son petit effet sur les réseaux sociaux. Des années d'expérience professionnelle et des différents postes dans de nombreuses entreprises, ou pas, hein, puisqu'on peut faire partie de la même entreprise aussi. La monocarrière, c'était bon pour les baby-boomers, pas pour notre génération X, déjà rompue par les soubresauts de la croissance et de l'emploi, avec le premier choc pétrolier en 1973-78, donc ça date. On a une expertise et des outils bien affûtés. Des profils comme le nôtre sont recherchés par les chasseurs de tête. En interne, on est également apprécié par les petits jeunes en stage. Notre casquette de super mama sollicite une fois de plus, ne nous déplaît pas. Notre petit dernier vient de passer le bac, 18-25 ans. C'est une tranche d'âge que l'on connaît bien. Voilà. De notre perchoir de chef, on peut dire aussi qu'on n'a plus rien à prouver, sans pour autant se reposer sur ses acquis. On sait faire confiance à notre savoir-faire et on le fait savoir. Conséquence, on sait combien on pèse sur le marché de l'emploi. De l'aplomb, on n'en manque pas. Le jeunisme est en plein boom, me diriez-vous ? Bah, pas du tout, en fait. C'est vrai, mais à part dans certaines start-up, on n'a jamais vu des collaborateurs qui ont exactement le même âge. Plus tard, de toute façon, bye bye le salariat, on montrera sa propre boîte d'expertise, un projet avec des amis pour devenir de jeunes entrepreneurs. Ça donne un véritable coup de frais. Fini le temps où on avait pour horizon le retour d'âge, ménopause et la retraite. On peut changer de vie et pas pour le début de la vieillesse. Donc, à force de lister de bonnes résolutions jamais tenues, on a appris à être raisonnable et réaliste. Rien ne vaut une seule bonne résolution formulée et tenue. Pas de vœux pieux, que des espoirs réalisables. Parler de nos perspectives dans la boîte lors des évaluations annuelles, planifier une reconversion professionnelle, perdre 4 kilos en un mois, et oui, c'est possible, prévoir un week-end à Londres. Notre banquier n'en fera pas une maladie. Des rêves de bas de plafond, des rêves à portée de main, nuance. On est devenu une super woman, super nana, c'est derrière nous. Les enfants sont grands, les petits-enfants, on ne les élèvera pas.
Ça, tu sais pas.
Non. La ménopause étant un excellent contraceptif, on peut avoir une vie sexuelle vraiment dissociée de la maternité. Plus de stress ou moins retard de règles. D'ailleurs, plus de règles du tout. Bon débarras. Et puis, il y a d'autres manières de vivre sa féminité qu'à travers des signaux purement psychologiques. Grâce au sport et aux cosmétiques, on a un corps tonique, glamour et sensuel. Et dire que jeune fille, on a bouloté des bonbons perchés sur ses cahiers, on ressemblait à un patapouf. Donc, les Jésus et les Toy Boy de stars s'intéressent aux femmes mûres. C'est signe qu'on a quelque chose en plus, pas en moins. Quant aux hommes mûrs, il faut qu'ils fassent un effort pour nous séduire. Front dégarni et bedaine d'hommes d'affaires, non merci. Ça sonne le glas de la retraite amoureuse. Ils aiment en général les femmes jolies et jeunes, de préférence. Nous, on aime les hommes beaux, de préférence, et jeunes, pas forcément. Mais intellectuellement brillants, ça c'est indiscutable. Au fond, on est là pour se divertir mutuellement. Au lit, soi-disant passant, on est là pour donner et prendre du bon temps, et cela se joue parfois en dehors des sentiments. Tout cela fait de nous les meilleurs amis des hommes, ce qui finalement n'est pas rien.
Allô, c'est bien, dis donc.
Bah oui, t'as vu, hein.
Ça me croit.
C'est pour ça que je voulais le dire la semaine dernière. Fallait pas que je passe à côté. Bon, bah, sur ce, on va écouter quand même un petit peu de musique et puis on va revenir à nos invités, n'est-ce pas, Angèle?
Oui, alors cette fois, je vais vous passer Forget Me Not de Patrice Rushen, sorti en 1982.
Eh ben, on écoute ça.
Ah, je me suis trompé de vous.
Ah, bah oui, Angèle, il s'est trompé. Il est perturbé.
Il est perturbé, voilà.
Il est perturbé.
Get me nuts. Help me to remember.
petite rubrique confiance en soi. On est parti ?
Allez.
On rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi ? Quels sont les mécanismes ? La confiance en soi, vous avez entendu... Pourquoi Angèle, il me fait des signes ? Ben, je sais, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, j'ai vu. Donc, vous avez sans doute entendu ce grand mot... Enfin, ce mot un grand nombre de fois, mais le connaissez-vous vraiment bien ? Pouvez-vous donner une définition de la confiance en soi ou parler de ses mécanismes ou de ses implications ? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre pour mieux lutter contre le manque de confiance en soi. Qu'est-ce que, bah justement, tout ça, hein, les questions... Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que j'ai bien parlé tout à l'heure. Donc, on va passer tout de suite à nos petits invités. Hein. On va parler justement confiance en soi, estime de soi, brièvement. On va pas, on n'est pas là, on n'est pas des psychologues.
Bah oui, quand tu vois, quand on voit certains, ça fait peur.
Ouais, voilà. Alors donc nous accueillons Pascal Saint-Yves.
Saint-Yves, ouais.
Ouais, j'ai bien dit. Saint-Yves.
Saint-Yves.
Et Gaëlle
Fagnoul.
Fagnoul. C'est breton aussi.
Bah oui, en fait.
Ah bah voilà. Non, tu m'as dit, faut que tu dises bien Saint-Yves.
Ah bah oui.
Bon bah comme quoi. Alors du coup, bah, on va commencer par... Allez, on commence par qui ? Honneur aux dames ?
Bah,
voilà, Pascal, il est galant.
On va dire ça.
Aucun doute là-dessus.
Ah non, non, c'est plus par le... C'est d'abord,
oui. Ah, oui. Parce que les gens ne voient pas, les gens entendent, mais ne voient pas les gestes. Donc bah, du coup, Gaëlle, parle-nous de ton parcours. Donc tu es maître Reiki, c'est ça ?
Je suis maître Reiki, oui.
Reiki,
et donc coach EFT aussi également, qui est une autre technique.
Et c'est quoi EFT ?
Alors l'EFT, c'est la technique de libération émotionnelle. Donc c'est, on travaille sur les méridiens. Mm-hmm. Donc c'est tous les points d'acupuncture en fait.
D'accord.
Sauf que, pour ceux qui ont peur des aiguilles, c'est super sympa parce qu'il n'y en a pas.
D'accord.
C'est à base de tapotement. Et d'affirmations, en fait, d'abord négatives pour travailler sur le problème. Et ensuite, on rajoute le positif pour justement amener la confiance en soi.
D'accord. Un peu comme la réflexologie plantaire.
Un peu comme la réflexologie plantaire, tout à fait.
Ok. Ouais. C'est cool, on découvre des choses. Et donc ton parcours, t'es partie dans ça directement ou
absolument
t'as...
pas.
Voilà.
Moi j'ai vu voter de petits boulots alimentaires jusqu'à il y a à peu près 6 ans. Puis j'ai décidé de monter une boîte. Ça marchait pas du tout, mais parce que c'était pas du tout ça que je devais faire. Et puis j'ai été amenée à être formée au Reiki. Et bien c'est là que...
Mais c'est quoi le Reiki exactement ?
Alors le Reiki, c'est une technique énergétique donc sur imposition des mains. Donc on travaille sur le corps énergétique de la personne. Donc c'est sur les chakras, etc. Donc ça travaille sur le plan physique, émotionnel. Donc on peut régler les petits bobos et puis les bobos de l'âme aussi. Et donc forcément sur le corps énergétique.
D'accord.
Ouais. Bien, ça permet de régler des choses qui peuvent être profondément ancrées en nous.
Beaucoup plus
qu'une thérapie, par exemple. Dites conventionnelle, bien sûr.
Oui, 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 on a bien compris.
Voilà.
Et donc, nous avons donc Pascal Saint-Yves. Et toi, ton parcours ? Parce que moi, j'aime bien son parcours, en fait.
Alors, je veux quand même préciser une chose.
Oui, vas-y.
C'est que je t'avais demandé de dire que je venais en route secours.
Oui,
alors,
mais
j'ai
ça,
pas
c'est...
eu ton préparer le truc.
Mais c'est pas grave.
Mais en termes de confiance en soi dans le milieu du sport professionnel, forcément, ça s'utilise. Alors, moi, j'ai un parcours... En tant que joueur, bon, on ne va pas s'éterniser sur celui-là, en tant qu'entraîneur. Et en fait, je me suis aperçu de plusieurs choses. C'est que, hormis l'aspect technique et tactique du football, qui est la base du jeu et de beaucoup d'entraîneurs, j'estimais, suite à la réaction de différents jeunes joueurs connus aujourd'hui internationaux, ils me disaient, écoute, parce que l'entraîneur, il fait ceci, il fait cela, mais bon... on n'a aucune considération, on est blessé, on nous change comme un pion.
Mmh.
En fait, je suis parti sur plutôt l'aspect humain du joueur. Alors, bon, tout le monde peut mettre en place une séance d'entraînement, ça c'est pas purement footballistique. J'ai essayé de gratter un peu plus loin. Et derrière chaque joueur, t'as un être humain et avec sa sensibilité, ses problèmes. Et je me suis aperçu d'une chose, et après l'expérience aidant, c'est que quand on a commencé à travailler sur ce genre de choses, les joueurs retrouvaient leur performance parce que on arrivait parce qu'on était le fait d'en parler aussi avec les adjoints, je les ai sensibilisés à ça et dans leur façon de leur parler. Ben, c'est du management, en fait. Tu sais, est-ce que je te dis là, ça se passe en entreprise aujourd'hui. Enfin, il faut essayer de le mettre en place en entreprise, dans ta vie de tous les jours et dans le sport de haut niveau encore plus, parce que tu as une pression, tu as pas mal de choses. Bon, on va pas revenir sur la partie financière. On va dire oui, ils sont payés pour, mais derrière chaque athlète, t'as un homme ou une femme. Et ça reste qu'un être humain. Et il faut avoir, alors j'aime pas le terme, je t'en ai parlé tout à l'heure,
ouais.
La bienveillance, ça m'ennuie un peu ce terme. Mais en fait, il faut essayer on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. En fait, il faut les aimer. Les joueurs, il faut les aimer. Enfin, moi, voilà, c'est l'âge de mes enfants. Et on arrive, il faut créer cette ambiance-là, créer une famille. Les meilleurs résultats, on les a eus comme ça, hein, en créant une famille. Et ça nous permet aussi également, en étant comme ça, proche d'eux, en les aimant, de leur dire aussi quand ça ne va pas. Tu sais, c'est pas un rapport basique. On va plus loin. Et les résultats qu'on a pu avoir, ou que j'ai pu avoir dans différents clubs avec différents entraîneurs, on avait réussi à créer ça. Et les joueurs aimaient vivre ensemble. À partir du moment où tu sais vivre ensemble, tu joues bien ensemble.
Leur montrer qu'on a confiance en eux, quoi.
Oui, mais voilà. Et tu sais, la réunification de grandes stars fait pas forcément une grande équipe.
Non.
Parce que tu dois gérer des égos. Et puis si t'as pas l'homme, si t'as pas la présence d'un ou deux hommes ou trois hommes qui ont... Ça reste que mon idée, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mm-hmm. Tu peux pas tirer le meilleur potentiel de chacun. Et en entreprise, il y a le même souci. Hein. Mais t'arrivais parfois d'intervenir dans des entreprises et tu voyais le management despote. Enfin, ouais. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, je vois plus les choses comme ça. Voilà.
C'est, de toute façon, il faut faire confiance avec qui on travaille, je pense aussi. Et puis ne pas... jouer au petit instituteur, t'es pas gentil,
oui,
un petit coup sur
derrière,
voilà.
Base, ouais. Oui, c'est aujourd'hui, on se trompe beaucoup là-dessus.
Bah, il y a même des parents de toute façon qui se trompent
oui.
Sur.
Alors on peut venir après sur.
Tu vois, les
sur
parents,
la de...
sur la vie de couple, t'en as un qui est plus tyrannique que l'autre. Enfin, c'est
parfaitement. Non, mais après, si on revient sur la genèse du manque de confiance en soi, il y a trois grandes lignes pour moi, mais voilà. Oui,
c'est les parents sont en première ligne. Voilà. Ça, c'est... Donc, en fait, donc pour vous, la définition de la confiance en soi, puisque du coup, on va avoir deux définitions un peu différentes, et ça, c'est bien.
Pour moi, en fait, la confiance en soi, c'est savoir s'aimer et puis savoir qu'on est capable d'aller faire tout ce qu'on a envie de faire, en fait. Et c'est marcher la tête haute et être... d'être en confiance,
savoir qui on est, quoi.
Savoir qui on est, déjà c'est se connaître bien, c'est savoir qui on est et savoir qu'on est capable et peu importe ce que c'est, on peut tout faire.
Oh, je peux juste approuver.
Merci.
Ce que je veux dire de plus, c'est ça, la confiance en soi. L'a parfaitement résumé, oui.
Mais beaucoup, moi je trouve qu'on en avait parlé la dernière fois, Pascal, enfin plutôt hier, mais c'est que elle n'est pas prise dans le bon terme, je trouve, en ce moment, la confiance en soi. On est...
Non, c'est vrai.
En fait, comme on en discutait, c'est dans le milieu, c'est toujours performance, 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 performance. Alors que la confiance en soi, c'est pas performer.
Ah non.
C'est apprendre à se connaître.
Non, mais c'est savoir aussi qu'on est capable de le faire, si on le veut.
Mais ça veut pas dire chiffre d'affaires, performance, être le meilleur.
Ça n'a rien à voir.
Je trouve qu'il y en a beaucoup sont plutôt là-dedans que. Aller chercher pourquoi est-ce que je vais dire dans la glace je suis belle, ou alors pourquoi est-ce que je vais dire je vais être meilleure que ce que j'étais hier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
On va se laisser pour une petite page de pub de 5 minutes et puis on reprend tout de suite après. On reprendra d'ailleurs avec Coco.
Ah oui.
Bah ouais, Coco. Déjà. Ça va être à toi.
Okay.
Pourquoi t'étais déjà partie? Elle
non,
était complètement
en train de
médusée,
là, oui,
on disait. Moi, je vous dis à tout de suite.
Artisans, commerçants, si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent également.